Le Seigneur nous ne demande pas d'être des spectateurs, mais des disciples, des vrais disciples qu'il aime. D'ailleurs, il a montré l'exemple. Alors, pourquoi je vous parle de discipulat? Tout simplement parce que vous savez que dans notre église, ou plutôt dans notre union d'église, nous avons 6 points importants que nous donnons, en tout cas. D'abord, la première chose, c'est l'authenticité, de la passion que nous devrions avoir pour Jésus. La deuxième ADN de notre union d'église serait une certaine valorisation des ministères dans leur diversité. Troisième ADN, je dirais, c'est l'église missionnelle. L'église n'est pas là pour juste pour nous, mais qui doit vraiment faire des activités pour la mission, l'église missionnelle. Et après, une église, l'ADN de notre union d'église, c'est une générosité pour le royaume de Dieu. Le cinquième point, c'est un engagement de tous pour la multiplication, qu'on soit pas juste, qu'on se satisfait pas juste pour notre église locale, mais qu'on multiplie encore d'autres églises, comme nous avons fait, c'est-à-dire en implantant l'église à Pompée, ou encore, il y a quelques années, on a encore aidé à implanter l'église de Malteville. C'est ce que nous devrions faire, en tout cas, multiplier davantage. Et puis, le sixième point, enfin, ce n'est pas forcément le numéro 6, mais le sixième point, c'est le discipulat. Discipulat. Si Jésus s'est adressé aux foules, si Jésus les a enseignés, si Jésus les a guéris, les a nourris, il a surtout aussi investi dans un petit groupe, dans un petit nombre de disciples qu'il a pris avec lui. Il les a formés, il les a préparés à poursuivre sa mission. Et de même, notre église de Vendeuvre doit mettre vraiment au cœur de notre ministère la formation des disciples. L'église doit être une communauté ouverte où se développent des relations intentionnelles, dans lesquelles la parole de Dieu est enseignée, où on apprend à suivre Jésus, à se laisser transformer par lui et à faire d'autres disciples. C'est ça, en fait, le discipulat. Bon, si vous avez compris, ça y est, j'ai fini ma prédication. Je vais un petit peu développer quand même. Voilà. Bon, ça c'est après, tu peux laisser, tu peux... Ouais, les fans. Ouais. Discipulat, voilà. Ouais, les éléments clés d'un disciple, je vous lis, hein, c'est apprendre, ressembler, imiter au maître selon les capacités que Dieu nous a données. Il faut aussi travailler, non pour contrainte, mais il faut travailler avec joie pour le perfectionnement. Pour cela, il faut aussi donc s'encourager mutuellement. Donc, il ne faut pas qu'on soit tout seul, mais il faut qu'on soit aussi entouré des gens. On s'encourage mutuellement dans l'unité, hein, pas dans le conflit, mais dans l'unité et dans l'amour, sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Voilà, je pense que c'est... J'ai un petit peu mis cette phrase pour dire que c'est quand même important. Voilà, pour être, c'est ces éléments clés pour devenir un vrai disciple. D'ailleurs, lorsque nous lisons dans Genèse, Matthieu 28, dans les dernières paroles de Jésus, c'est « Allez, allez !» Et puis ensuite, « Faites des disciples !» Et ensuite, quoi? Voilà, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et aussi en les enseignant, hein, ce que je vous ai prescrit, et à respecter, à obéir aussi. En tout cas, il y a plein de choses. Nous sommes appelés à faire d'autres disciples, mais avant de faire d'autres disciples, nous, tout d'abord, nous devrions être des vrais disciples. Nous devrions être des vrais disciples. Et ces éléments clés sont très importants pour grandir, pour grandir. D'ailleurs, Dieu a déjà montré comment il fallait faire pour être des vrais disciples. J'aimerais apporter une petite définition. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Un disciple, hein, c'est pas une définition qui est marquée dans un dictionnaire. Hein. C'est moi un peu qui a un petit peu fait. Un disciple est appelé par Jésus. Donc pour nous, hein, pour nous les chrétiens, un disciple est appelé par Jésus. donc celui qui a appelé. Jésus a lancé cet appel. Un disciple, celui qui a déjà répondu à cet appel de Jésus, qui a accepté son enseignement, qui le vit et il le transforme, il le transmet à quelqu'un d'autre. Ceci au sein de la communauté des disciples et ceci avec le but de créer aussi une nouvelle église et pour transformer la société. Non seulement il faut qu'il y ait une influence dans ma vie personnelle, mais que cela puisse aussi impacter à ceux qui sont autour de nous. C'est vraiment très important. Alors, qu'est-ce qui n'est pas un discipula ou un disciple, qui discipula plutôt ? Ce n'est pas un programme comme l'évangélisation, ce n'est pas une stratégie de multiplication, ce n'est pas juste pour les responsables dans nos églises, ce n'est pas non plus pour des érudits seulement, ou ce n'est pas juste une étude, mais vraiment, comme je viens de définir, un disciple est quelqu'un qui a répondu à cet appel. Il y a une relation intime avec le Seigneur. Hein. On pourrait peut-être voir les éléments bibliques et modèles de Jésus-Christ, comment Jésus a formé ses disciples. Ce serait intéressant de voir... Ah, c'est un peu long. Oui. C'est un peu lent, plutôt. C'est aussi lent que ça? Ah oui, voilà. Voilà, donc les éléments bibliques et modèles de Jésus-Christ. Comment Jésus a formé ses disciples? J'aimerais vous lire donc dans Jean, chapitre 15, où il est dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Voilà, le Seigneur est le cep. Nous sommes ses sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Il faut que nous, en tant que sarments, nous devrions être collés à ce cep, à Jésus-Christ, pour recevoir son énergie, pour recevoir tous ces... Comment on dit ça? La sève. Voilà, la sève. Pour grandir et surtout pour porter des fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. On a beau faire tout notre effort, on ne peut pas nous transformer. Il faut que Dieu entre en nous, travaille en nous pour que nous puissions être transformés. Pour cela, oui, comme nous venons de lire, en tant que sarment, nous devrions être collés à ce cep. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Voilà un peu ce qui se passe lorsque nous ne sommes pas collés à ce cep. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Voilà, c'est un mot très important. Si vous portez des fruits, c'est à ce moment-là que vous serez vraiment mes disciples. Sommes-nous juste des spectateurs ou nous sommes vraiment assez matures pour porter les fruits que le Seigneur veut nous accorder. Oui, le Seigneur nous a donné en tout cas ce mandat, pour qu'on soit transformé, mais aussi pour faire du travail autour de ceux qui nous entourent. Et puis, ce serait bien encore de voir un autre passage. Voilà. Dans Matthieu, aussi. Dans chapitre 9, Jésus parcourait ville et village, il enseignait dans leur synagogue, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Voilà le Seigneur Jésus, lorsqu'il est arrivé sur cette terre, ce qu'il avait fait, c'est de prêcher la bonne nouvelle et aussi il avait la compassion pour les gens qui étaient sur place. Il guérissait toutes sortes de maladies et d'infirmités. Il prêchait la bonne parole. Il enseignait aussi dans les synagogues. Parce que dans son cœur intérieur, il voulait vraiment convertir tout le monde. D'ailleurs, le Seigneur lui-même, actuellement, maintenant, il aime le monde. Son souhait, c'est que le monde entier revienne vers lui. Comme le Père qui a attendu le Fils prodigue, Dieu attend que le monde se convertisse. Il a un grand amour pour cela. Et un vrai disciple devrait comprendre le cœur de Dieu. devrait vraiment, oui, apercevoir en tout cas son attitude. Son cœur fut rempli de pitié pour les foules qu'il voyait. Est-ce que nous avons cette compassion lorsque nous voyons les gens qui n'appartiennent pas encore à Dieu, hein? Qui n'appartiennent pas encore, pas encore. c'est intéressant. Dietrich Bonhoeffer disait « L'Église est la seule association qui est non seulement pour les membres, mais pour les futurs membres. » Travaillons pour que, voilà, qu'il y ait des futurs membres dans cette Église. Et pour cela, qu'est-ce que Jésus a fait? Il avait une grande compassion pour mon prochain. Quand vous rencontrez peut-être votre famille qui n'est pas convertie, est-ce que vous avez vraiment cette compassion, cet amour du prochain? Son cœur, en tout cas, fut rempli de pitié pour les foules qu'il voyait. Car ces gens étaient fatigués, découragés. Voilà, il y a tellement de gens qui sont fatigués, découragés autour de nous, comme un troupeau qui n'a pas berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson à faire est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour cela. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour la faire. » Voilà, nous devrions vraiment que ce lieu soit un lieu où on suscite d'autres ouvriers, où on suscite vraiment d'autres moissonneurs pour faire le travail du Seigneur. Jésus appelait ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser des esprits mauvais et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. On voit bien que les disciples n'ont pas été juste des spectateurs. Ils n'étaient pas des gens qui ont écouté seulement. Ils ont fait des pas, un grand pas, pour mettre en pratique ce qu'ils avaient appris. Et c'est pour ça que souvent Jésus envoyait ses disciples faire le travail de l'évangélisation. Les 12 ont été envoyés. Même il a envoyé les 70 d'eux-mêmes à faire de la même chose, c'est-à-dire guérir, prêcher la bonne nouvelle, etc. C'était important de mettre en pratique ce qu'ils avaient appris. Est-ce que nous le faisons vraiment? Et d'ailleurs, comment forme-t-on les disciples au niveau de l'Église locale? C'est une réflexion que nous devrions avoir. Est-ce que c'est, comme je vous avais dit, ce n'est pas forcément les programmes qui forment des disciples. Mais par contre, ça peut être utile, c'est vrai. Ça peut être utile. Bientôt, nous allons faire organiser, encore cette année, les parcours Alpha. Voilà, est-ce que c'est ça qui va nous aider à progresser? Peut-être pour devenir disciple, on devrait peut-être consulter aussi En Chemin pour grandir spirituellement ou encore pour guérir nos blessures avant de devenir des vrais disciples ou encore, en tout cas, pour être En Chemin. Est-ce que nous devrions peut-être davantage approfondir la parole, peut-être, avoir un ami avec lequel nous pouvons grandir ensemble. Vous savez que les années où j'ai vraiment grandi le plus, c'est parce que j'avais un ami avec qui je priais tout le temps. Un ami de prière. Je disais, voilà, moi tout seul, c'est un peu, voilà, je me laisse aller, alors est-ce que tu veux bien qu'on se donne rendez-vous pour prier? Et cet ami était prêt. C'est pour ça qu'on se réunissait chaque vendredi soir pour prier ensemble. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé à grandir. Est-ce que c'est ça qui pourrait vous aider en tout cas à grandir, à devenir des vrais disciples? Sachez que si nous venons que le dimanche matin pour le culte, c'est comme si vous survivez spirituellement. Hein? Il faudrait manger de la nourriture spirituelle dans la semaine même pour grandir, pas juste le dimanche matin. Ce que je vous dis, vous le savez. Mais vous avez besoin aussi de réentendre. Hein? Vous avez besoin de réentendre. Voilà les étapes de discipulat que j'ai un petit peu mises en place. Il y a plusieurs phases dans notre vie. Il y a une phase où nous n'avons pas connu... Tu peux passer? Il n'y a pas d'autre chose? Voilà. Il y a plusieurs phases dans notre vie. Voilà, quand nous ne connaissions pas Dieu, nous avions une certaine conscience du surnaturel. peut-être on n'avait aucune connaissance réelle du christianisme, ça arrive, hein. Je rencontre pas mal de personnes qui n'avaient aucune connaissance réelle du christianisme, c'est par peut-être des amis qu'ils ont su après. Après, avant d'accepter le Seigneur, on est en recherche quelque chose de spirituel, du Créateur ou d'un Dieu quelconque. Donc là, à ce moment, ou encore, on n'a aucune croyance sur Dieu. D'ailleurs, je leur dis qu'ils ont une grande foi pour ne pas croire à quelque chose. Hein? Ça demande aussi la foi. En tout cas, on est dans cette étape où on reste un état de mort, où on, voilà, j'appelle ça une phase pré-discipula. Ensuite, un jour, vous avez découvert l'Évangile, vous avez rencontré le Seigneur, vous avez connu la joie du salut, et on devient un bébé spirituel. Hein, un bébé spirituel. On ne connaît pas vraiment toute l'histoire de la Bible. On devient un consommateur. On a besoin, comme un bébé, des parents spirituels qui puissent vraiment nous entourer, nous épauler. Parce qu'un bébé reste fragile, n'est-ce pas? Un bébé reste fragile. On doit tout faire pour qu'il... Et est-ce que autour de nous, est-ce qu'il y a des bébés spirituels? Ils ont besoin de quelqu'un pour grandir ensemble. Alors, il ne faut pas les laisser comme ça tout seuls. Hein? Parce que une fois que nous avons connu, nous avons goûté la joie du salut, une fois que nous avons découvert la vérité, celui qui déteste le plus, c'est qui? C'est le diable. Et le diable est là pour décourager toutes ces personnes. Et ces bébés spirituels, ils ont besoin d'être accompagnés. Et ensuite, il y a l'enfance. Nous avons en tout cas goûté, nous avons pris conscience de notre péché pardonné. Nous avons maintenant une relation avec les autres. Mais on reste comme un enfant encore. On est centré sur nous-mêmes. C'est toujours moi. Hein, dans nos prières, on peut voir que nous sommes encore enfants parce que c'est toujours moi. Hein? Mais on aspire quand même à grandir, on aspire aussi à découvrir la parole de Dieu. Et puis après l'enfance, il y a la jeunesse qui est là. Et puis à ce moment-là, on découvre aussi les ministères. Les autres personnes leur donnent à ces jeunes une place. Mais comme tous les jeunes, on fait aussi des bêtises. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Comme tous nos jeunes, tous les jeunes, oui, nous faisons aussi des bêtises. Parfois, on peut faire des bêtises. Et puis, à ce moment-là, oui, ils demandent encore de l'aide. Ils découvrent leurs dons spirituels. Et puis, ils découvrent aussi qu'il y a quand même pas mal de problèmes qui surgissent. Ils ont besoin d'aide. Et ces jeunes-là, ils ont besoin d'être entourés par des gens un peu plus matures. Ou peut-être par des grands frères. Et puis, il y a la phase où nous devenons parents. Voilà, les parents sont des gens matures. Enfin, j'espère. J'espère. Les parents, voilà. Et puis, enfin, moi, je suis devenu mature avec l'arrivée de mon premier enfant. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, maintenant, je suis devenu papa et il faudrait que je grandisse un peu. Voilà, en tant que parent... Voilà, un couple, lorsqu'ils ont des enfants, normalement, il prend en charge ces enfants-là. Et non seulement il s'occupe d'eux, mais il les amène plus loin. Il les aide à évoluer. Il les aide à se fortifier davantage, à mettre leur confiance totalement au Seigneur. Hein? Parce que, voilà, les parents... sont là en tout cas pour s'occuper des bébés spirituels. Dans quelle phase, dans quelle étape êtes-vous en ce moment? Est-ce que vous venez de découvrir l'Évangile et vous êtes devenu bébé, enfin spirituel? Est-ce que vous avez quand même maintenant une certaine période passée que vous êtes à l'enfance ou vous êtes en train de grandir, découvrir la parole de Dieu? Et puis peut-être vous êtes un jeune homme qui peut apporter une certaine influence, même vous pouvez être leader, mais en même temps, voilà, vous avez quand même besoin d'être épaulé et aussi faire grandir votre connaissance aussi pour mieux connaître. Et peut-être que vous êtes des parents, peut-être que vous êtes en train de peut-être vous occuper de quelqu'un qui a besoin de grandir. En tout cas, quoi qu'il en soit, nous sommes tous en route pour la sanctification. Nous sommes tous en route pour devenir des vrais disciples. Des vrais disciples. Et voilà. Que le Seigneur vraiment nous aide à assumer tous ces traits, à toutes ces charges que le Seigneur nous met dans nos cœurs. Voilà donc. J'aimerais encore vous lire quelques versets dans Jean 8:31 pour conclure. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Je vous relis. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Voilà. Demeurez dans la parole de Dieu. C'est ainsi que nous devenons des vrais disciples. Tout à l'heure, je vous avais dit aussi que si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Non seulement rester là où vous en êtes, mais il faut avoir ce désir pour grandir. Vous connaissez la devise de notre Église ? S'enraciner, grandir et porter du fruit. Porter des fruits. Il faut s'enraciner, hein, c'est-à-dire par la parole. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Si les racines sont fragiles, vous pouvez tomber, vous pouvez mourir même. Il faut s'enraciner profondément pour ne pas être ballotté par peut-être des épreuves qui pourront vous décourager. Mais c'est important de porter des fruits. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le plus important, est-ce que nous avons vraiment l'amour pour les uns pour les autres, comme Dieu avait cet amour pour le monde? Est-ce que nous avons cet amour pour mon prochain? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un travail à faire dans ce domaine? Est-ce qu'il y a peut-être, j'ai un problème avec, relationnel peut-être avec quelqu'un? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse des efforts pour régler certaines choses à régler? Voilà, je vous ai laissé quelques pistes pour devenir un vrai disciple du Seigneur. Que nous puissions en tout cas réfléchir, prier, et puis peut-être approfondir notre réflexion et mettre en pratique aussi ce que nous avons peut-être reçu ce matin pour améliorer. Et ensuite, nous ne devons pas rester là. Comme le dernier commandement du Seigneur, nous devons aller dans le monde. Nous devons aller dans le monde pour faire d'autres disciples. Nous devons aller dans le monde pour les baptiser, les enseigner et puis les faire obéir à la parole de Dieu. Pour cela, oui, nous avons besoin aussi de la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu, que nous soyons vraiment remplis, que nous soyons vraiment dans la plénitude de l'Esprit de Dieu pour accomplir toutes ces tâches que Dieu met sur notre chemin. Comme je vous disais hier, en ce moment, on fait une formation de baptême. Je lui disais donc, Maria, oui, il faut choisir le chemin étroit. Hein, le chemin étroit, qui est parfois difficile en tant que chrétien. Mais voilà, qu'il faut la grâce pour vraiment prendre ce chemin-là. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas être des fans de ta parole. Nous ne voulons pas être des gens qui sont que des spectateurs. Mais nous voulons être des acteurs qui met en pratique ta connaissance, qui met en pratique tes commandements, qui met en pratique, Seigneur, les devoirs que nous devrons assumer. Mais tout cela avec joie, parce que tu nous as sauvés. Tout cela avec joie, parce que tu nous as pardonnés. Seigneur, aide-nous sur ce chemin de sanctification, de discipulat, pour que nous puissions demeurer dans ta parole, pour que nous puissions vraiment grandir, porter des fruits, et avoir de l'amour les uns pour les autres. Avoir de l'amour pour mon voisin, ma famille, mes collègues de travail, ou même avec mon frère et ma sœur en Christ, avec qui peut-être j'ai des problèmes. Que tu travailles dans mon cœur, dans mon intelligence, et que qu'on puisse vraiment débloquer certaines choses. Et pour cela, nous avons besoin de toi. Par notre propre force, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, viens en aide. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus. Amen.